Actuellement, près de 70 000 produits chimiques sont commercialisés un peu partout dans le monde. Et malgré cette très grande variété, 1 500 molécules nouvelles sont mises sur le marché chaque année. Parmi ces produits chimiques, il y a les pesticides que nous avons fabriqués pour détruire les organismes vivants qui nous dérangeaient, notamment pour cultiver. Nous en avons dispersé des tonnes dans la nature, or ces produits se sont révélés toxiques et dangereux. Pour aborder ce dossier, nous sommes enfin avec vous dans le studio. André Picot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc toxicologue. Alors, pour démarrer, peut-être ce qui est important, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un pesticide. Parce que c'est un terme générique, mais c'est quoi, en fait, un pesticide ?
Le terme pesticide vient, en fait, d'un terme anglo-saxon, pest, qui était pour lutter, à l'époque, contre les rats et les souris, qui faisaient énormément de dégâts. Et ce terme, après, est devenu très général, c'est-à-dire que, selon que ça détruit des insectes, on parlera d'insecticides. C'était autrefois les pesticides les plus utilisés. Maintenant, les plus utilisés, c'est ceux contre les mauvaises herbes, qu'on appelle les herbicides, mais aussi contre les champignons, qu'on appelle les fongicides. Et puis, il y en a bien d'autres. Il y a des raticides, etc., etc.
Alors justement, quels sont les différents usages de ces pesticides ?
Ces usages sont essentiellement de lutter contre les prédateurs de l'homme. Les prédateurs de l'homme, bien entendu, ça peut être les animaux, hein, comme par exemple les rongeurs, mais il n'y a pas que cela.
Enfin, prédateurs de l'homme, c'est-à-dire les rats mangent pas les hommes quand même.
Non, mais ils détruisent les récoltes.
Oui, c'est ça.
Et donc, ça peut faire, et ça transmet aussi des maladies extrêmement graves. Ensuite, il y a bien entendu les insectes. Alors, ceux-là peuvent faire des dégâts considérables. Par exemple, les criquets dans les zones subsahariennes. Là, c'est vraiment catastrophique. Il y a d'autres insectes qui sont des vecteurs de maladies, bien entendu, les moustiques, etc., les mouches tassées. Et puis, à l'heure actuelle, on a de très gros soucis avec ce qu'on appelle couramment les mauvaises herbes. Donc, on utilise des herbicides. Tout le monde a entendu parler du Roundup, etc., et de l'atrazine autrefois. Et il y a aussi d'autres variétés qui sont de pesticides qui sont moins connus, peut-être, en particulier au niveau de leur toxicité. Ce sont les fongicides, par exemple.
C'est les anti-champignons, donc.
Anti-champignons, qui font, dans les zones humides, par exemple, des dégâts considérables.
Alors, on va revenir sur les dégâts, mais l'industrie chimique, pour satisfaire ce marché, propose des pesticides qu'ils rebaptisent souvent pour des raisons marketing, produits pour la protection des plantes, et qui se déclinent de nombreuses manières, suivant les pays. Je vous propose d'écouter ce reportage sur le marché des pesticides en Afrique, fait par Caroline Lafargue.
Le continent africain est un petit marché pour les fabricants de pesticides, avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. Il représente seulement 2 à 3% du marché mondial et pèse autant que le seul marché des pesticides en Espagne. Tous les grands groupes chimiques comme Monsanto, BASF ou DuPont sont présents sur le marché africain et tous adhèrent à CropLife International, l'association mondiale des producteurs de pesticides. Éric Bureau, lui, travaille chez l'allemand Bayer. Il est également vice-président de l'antenne de CropLife pour l'Afrique. Et malgré des besoins alimentaires qui vont croissant sur ce continent, la tendance du marché des pesticides ne suit pas.
On pourrait penser effectivement que face à l'intensification nécessaire de l'agriculture sur le continent africain, le marché devrait augmenter. En fait, ce qu'on observe, c'est une évolution assez irrégulière avec des hauts et des bas suivant les conditions climatiques, suivant surtout les financements, parce que l'Afrique souffre beaucoup de l'absence de garanties de paiement. Et donc, globalement, le marché total africain croît légèrement, mais c'est des à-coups qui sont assez irréguliers. Et en 2009, nous considérons que le marché est en baisse.
Autre facteur limitant pour les producteurs mondiaux en Afrique, la concurrence asiatique. Éric Bureau.
On estime en gros à 50% la part de marché des sociétés CropLife par rapport à la valeur totale du marché. Et puis vous avez d'autres sociétés, bien sûr les plus connues sont celles d'origine chinoise, qui copient des produits qui sont tombés dans le domaine public. Et ces produits à faible coût, mais également parfois de faible qualité, sont mis sur le marché, en particulier dans des pays où les législations sont insuffisantes ou pas bien respectées. Mmh. Et c'est malheureusement, nous le savons, souvent le cas de certains pays africains.
Mais les États africains auraient déjà rattrapé une partie de leur retard, à quelques exceptions près. C'est en tout cas ce que constate Gérard Gendron, le responsable de l'export vers l'Afrique et le Moyen-Orient au sein d'Arysta Life Science, un fabricant français de pesticides.
L'Afrique suit le reste du monde. Et les derniers produits persistants, comme l'endosulfan, je crois, est interdit maintenant pratiquement partout.
D'accord, donc vous n'en produisez pas de toute façon?
On en produit toujours pour les derniers pays qui en demandent sur le coton, notamment pour le Soudan.
Le parathion, le malathion, le thémix?
Du malathion notamment, j'en distribue dans la lutte contre les criquets au Niger par exemple. Ou c'est un des derniers produits organophosphorés qui soit accepté.
En Afrique, ce sont les insecticides qui sont les produits les plus demandés. Ils représentent quasiment 50% du marché total. Or, les insecticides sont aussi les produits les plus décriés par les écologistes. Pour Eric Bureau de CropLife International, ces inquiétudes sont infondées.
Il ne faut pas que l'on considère aujourd'hui que l'Afrique est la poubelle de l'Europe. D'anciens produits ont été retirés parce qu'on a été capable de proposer des produits plus sûrs, moins toxiques, qui s'utilisent à des doses plus faibles. Globalement, on retrouve sur l'Afrique les mêmes grands produits qu'en Europe.
André Picot, l'endosulfan toujours distribué au Soudan, ça vous fait réagir ?
Oui, de toute façon, il n'y a pas très très longtemps qu'on a limité en Europe son utilisation.
Qu'est-ce que c'est l'endosulfan ?
Alors, l'endosulfan, ça fait partie d'une grande famille qu'on appelle les organochlorés, c'est-à-dire des composés du carbone qui contiennent du chlore. C'était un des derniers représentants. Il y en a un autre, un herbicide aussi, qu'on appelle l'alachlore, qui a été retiré tout assez récemment dans l'Union européenne. Ces produits, en général, sont bien moins connus que le DDT, par exemple, ou en France, le lindane, parce que leur usage était plutôt vers les pays en voie de développement.
Mais ils ont quoi comme conséquence sur la santé ?
La majorité de ces produits organochlorés agissent en modifiant les messages hormonaux. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Leur pouvoir peut, chez l'homme par exemple, amener à un dérèglement hormonal, mais beaucoup plus grave, par exemple chez la femme, à une augmentation du cancer du sein.
Alors il y a Mohamed Amati qui vient de nous rejoindre, qui est avec nous au téléphone depuis Rome. Bonjour Mohamed Amati, vous nous entendez ?
Bonjour, je vous entends bien.
Bon, alors vous êtes expert dans la gestion des pesticides pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et j'avais envie de vous demander pour commencer un petit peu, qu'est-ce qui existe finalement au niveau international comme réglementation par rapport à ces produits, ces pesticides ?
Comme réglementation par rapport aux pesticides, d'abord je voudrais commencer par ce qu'on appelle le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides. C'est un code qui a un caractère de volontariat pour aider surtout les pays à se développer pour la gestion des pesticides. Comme d'autres réglementations internationales, principalement, il y a un certain nombre de conventions, la convention de Rotterdam, la convention de Bâle et la convention de Stockholm. Alors tout ça pour la gestion des pesticides au niveau international.
Alors il y a une histoire par exemple qui a été très intéressante dans l'histoire des réglementations, c'est la fameuse histoire du DDT, hein, André Picot, vous pouvez peut-être nous la rappeler, hein, c'est finalement ça a été une affaire qui était aussi à l'origine de la prise de conscience écologique.
Oui, absolument. le début de l'écologie, donc, qui a été fait avec l'ouvrage Le Printemps Silencieux, mettait en cause effectivement ces organochlorés sur la fragilité des œufs des rapaces. Et donc, c'est de là qu'il y a eu aux États-Unis, dans les Rocheuses, puis après dans le Midwest, etc., cette prise de conscience de Rachel Carlson.
Oui, c'est-à-dire que c'est un produit donc qu'on a développé, c'était quand ? C'était après-guerre ?
Après-guerre, c'est un produit qui a été synthétisé dans les années 30-32, par là, qui a été développé surtout pendant la guerre, à la fin de la guerre, parce qu'il fallait éradiquer dans la Méditerranée le palu. Ce paludisme faisait des ravages considérables, et pour l'armée, en particulier l'armée des Alliés, il fallait absolument éradiquer ces moustiques. Et là, il y a eu un usage intensif dans certains endroits, par exemple à Chypre, à Crète, etc., dans la Grèce, et aussi en France, dans le Languedoc, pour éradiquer ces moustiques.
Alors moi, Mme Amati, comment peut-on être exposé aux pesticides finalement ? Comment circulent ces pesticides dans notre environnement ?
Ben, dans notre environnement, les pesticides, d'une manière générale, alors ils commencent à avoir leur impact depuis leurs conditions de stockage. Et, par exemple, dans les pays en voie de développement ou bien sous-développés,
On reparlera tout à l'heure des stockages au Mali, mais c'est vrai, comment ils se dissipent dans la nature, on en vaporise, et finalement ces produits, comment ils circulent, ils se posent sur le sol, ils se contaminent les eaux.
Oui, effectivement, c'est-à-dire au cours de leur application directe pour le contrôle des ravageurs, des maladies sur le terrain, effectivement, ils sont disséminés dans l'atmosphère. Il y a un reliquat qui vient contaminer le sol, et puis une partie qui pourrait aller en profondeur pour la contamination des eaux, des nappes, et ils peuvent aussi contaminer, ils peuvent laisser des résidus s'il n'y a pas une bonne attention quant aux techniques d'application et ce qu'on appelle, intervalle avant les récoltes, avoir des résidus très importants sur les fruits et légumes ou bien tous les produits récoltés. Donc ça, c'est la contamination, en quelque sorte, directe qui pourrait atteindre la chaîne alimentaire et l'homme.
Alors justement, André Picot, si ça touche l'homme, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques pour les populations humaines qui sont victimes d'intoxication, justement, à ces pesticides?
Tout dépend, bien entendu, de la nature du pesticide. Si on reste dans les organochlorés, qui sont les plus anciens insecticides, tout au moins insecticides de synthèse. Avant, il y avait des dérivés de l'arsenic, après la guerre, on a commencé à synthétiser des produits comme le DDT, le lindane. Si on s'arrête uniquement sur ces produits organochlorés, qui, il faut bien le dire à l'heure actuelle, sont très limités en usage, au moins au niveau de l'Union européenne. Pas du tout dans les pays en voie de développement, mais au niveau de l'Union européenne. Eh bien, ce que l'on constate, après, mettons, une cinquantaine d'années d'utilisation, puisque le DDT, ça fait à peu près une cinquantaine d'années, c'est une recrudescence, par exemple, chez la femme, alors ça a été des études épidémiologiques faites aux États-Unis, de cancers hormonodépendants, en particulier le cancer du sein. Ça, maintenant, c'est absolument indéniable que ces organochlorés, qui sont très nombreux, hein, parce qu'on parle du DDT, mais par exemple, assez récemment, on a beaucoup parlé de la chlordécone dans les Antilles, qui a complètement contaminé tous les sols des Antilles, et où là, effectivement, on observe aussi une augmentation du cancer du sein et, chez l'homme, du cancer de la prostate, sans qu'on puisse faire vraiment de relation de cause à effet directe. Mais il faut constater que ces cancers...
On ne peut pas faire de lien de cause à effet direct, pourquoi vous en parlez comme ça? Alors,
Parce qu'on a une très forte présomption. Mmh. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller aux Antilles, et déjà, les spécialistes, par exemple, de l'analyse de l'eau, me disaient que l'eau était quasi imbuvable dans beaucoup de villages et de petites villes des Antilles françaises. Et ça, c'est il y a 5 ans de ça. Donc, tout le monde le savait.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
C'est pas du vent sur RFI, consacré aujourd'hui aux pesticides avec l'expert de la FAO, Mohamed Amati, avec le toxicologue André Picot.
Alors justement, l'Afrique est confrontée à de nombreux problèmes, hein, parce qu'à la fois, elle découvre, donc elle paye un lourd tribut à ces pesticides, et en même temps, elle utilise des pesticides, notamment pour lutter contre les criquets, etc. Il y a pas mal de produits qui se retrouvent sur le continent. Alors, l'un des grands problèmes qui se pose, c'est justement l'accumulation et la gestion des stocks périmés. Je vous propose d'écouter sur ce thème un reportage de Serge Daniel, notre correspondant au Mali.
Sur la nationale 7 qui mène au sud du Mali à une bifurcation, une plaque indique attention, site est contaminé aux pesticides. Écoutez, là, ça sent du pesticide.
Ça sent forcément du pesticide parce que c'est un site en voie de décontamination. Les odeurs ne vont s'extomper qu'à bout de plusieurs mois.
C'est dangereux, très dangereux.
Oui, c'est très dangereux.
Nos interlocuteurs sont membres de la cellule malienne du programme africain relatif au stock des pesticides obsolètes. PASP Mali. Au Mali, on retrouve sur plus de 250 sites un peu plus de 1000 tonnes de pesticides obsolètes. Dans une localité du nord, à Nefis par exemple, des analyses ont prouvé que la chaîne alimentaire a été contaminée. Docteur Cheikh Amada Sila, spécialiste en gestion des pesticides.
Sur ce site-là, c'est clair, ils ont effectivement trouvé à l'époque de la dieldrine dans du lait de chèvre.
La dieldrine est un produit chimique très dangereux pour la santé et pour l'environnement. Pour décontaminer les sols, comme celui de la localité de Dialakoroba où nous nous trouvons actuellement, le Mali a élaboré une technique locale, une première en Afrique. Docteur Cheikh Amada Sila.
Nous avons expérimenté ici une technique qu'on appelle la technique du land farming, qui consiste à excaver les terres, à les étaler, à les exposer au soleil.
C'est ça qu'on voit là.
C'est ce qu'on voit. Ouais. À les exposer au soleil et à l'air. Et justement aussi à les traiter, à favoriser la décomposition des pesticides par les micro-organismes du sol. C'est pour cela, vous avez vu là, nous avons étalé ici une grande couche de bouse de vache. Et nous avons aussi planté des arbres qui ont des propriétés de détoxication. Ça revient très très moins cher parce que exporter les sols contaminés, c'est $5,000 la tonne. Une opération ici, ça nous a coûté à peu près 10 millions de francs CFA.
Quelques mois après, ici, sur le terrain, les résultats sont déjà probants. Demba Sidibé, le patron du PHP Mali.
Nous, on sent maintenant que le processus de la décontamination a déjà commencé, parce qu'il y a signe vie. Les oiseaux sont là, les insectes commencent à circuler. Ouais. Donc, on sent que vraiment la terre n'a plus le même degré de contamination. C'est ça. Je pense que c'est une opération qui va permettre aux pays africains de se débarrasser facilement des sols contaminés. Quoi.
Pour lui, afin de gagner le pari, il faut plus de moyens.
Nous avons dégagé la situation financière et il y a un gap d'$1 million qu'il faut chercher pour vraiment atteindre les objectifs de ce programme.
Les moyens sont nécessaires, mais il faut également former le personnel de terrain. Seydou Diakité, spécialiste de la prévention des végétaux.
Nous avons tous été formés, même pour porter les masques, les combinaisons.
Les gants aussi, les on l'a vu tout à l'heure.
Hein, pour t'aginer, parce que c'est très dangereux.
La durée de vie dans les sols des pesticides obsolètes est de 40 ans parfois, d'où la nécessité d'organiser la lutte en amont et en aval. Docteur Mamadou Camara, spécialiste en prévention.
Notre première lutte, c'est de faire en sorte que les besoins soient en adéquation avec les commandes. Donc qu'il n'y ait pas d'avoir des stocks de pesticides qu'on n'utilise pas. Deuxième point, les pesticides qu'on doit utiliser. Ces pesticides doivent être utilisés de manière appropriée. C'est-à-dire qu'il y a des effets collatéraux de ces pesticides que l'utilisateur doit à tout coup éviter.
Des pays comme le Tchad, le Nigeria ont déjà décidé de s'inspirer de la méthode malienne.
Alors Mohamed Amati, quelles sont les réponses aujourd'hui techniques et financières justement pour gérer tous ces problèmes, notamment en Afrique?
Tout d'abord, je suis très content d'écouter ce reportage parce que c'est le fruit et le résultat d'un projet pilote qui a été initié au Mali et en Mauritanie concernant le land farming pour la décontamination du sol pollué par les pesticides. Et donc, on voit bien les résultats, son application dans pas mal de sites. Et d'ailleurs, c'était fait avec le collègue qu'on vient d'écouter et qui font partie du programme africain relatif au stock de pesticides périmés.
Alors, on parle de...
C'était parmi l'un des résultats. Alors maintenant, comme vous l'avez dit au départ, l'accumulation des stocks de pesticides en Afrique, il y a ces sols qui sont contaminés, il y a tout un stock de pesticides périmés et il y a aussi des emballages vides qui sont toujours la source de contamination de l'environnement.
On parle de 100 000 tonnes de pesticides périmés en Afrique.
Ah, 100 000 tonnes, ça je ne suis pas sûr. Jusqu'à présent, les chiffres officiels sont 50 000 à mon sens. Et certainement sont ajoutés tout ce qui est sol contaminé, emballage vide, etc. Mais c'est des statistiques qui sont à peu près plus ou moins anciennes et qu'il faudrait les actualiser. Mais l'état actuel, à mon avis, si on parle de 50 000 tonnes. Alors, 5 000 tonnes.
Alors justement, qu'est-ce qu'on a comme réponse et puis réponse financière, hein, parce qu'on voit bien, il faut trouver aussi l'argent derrière pour mettre en place ces solutions.
Bon, la première des choses, c'est qu'il s'agit maintenant d'un programme africain pour le relatif au stock des pesticides périmés, dont l'objectif c'est l'élimination et la mise en place d'un programme de prévention. Alors le financement ou bien les sources de financement, d'abord la principale source c'est le FEM, le Fonds mondial pour l'environnement.
Non mais donnez-nous juste en substance hein, pour conclure dans les grandes lignes.
Comment pour les financements, on a un projet pilote maintenant sur 7 pays. Et pour le moment, je crois qu'il y a le minimum pour l'élimination dans ces 7 pays. Le projet ou bien le programme, il est en train de s'élargir à 20 d'autres et on est en train de rechercher les fonds.
Écoutez, vous nous tiendrez au courant de ces recherches de fonds. André Picot et Mohamed Amati, merci d'avoir participé à cette émission sur les pesticides, un sujet sur lequel il faut revenir en longueur, hein, André Picot, très rapidement.
Absolument. Par exemple, quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est qu'une des façons indirectes de se contaminer, c'est la consommation des légumes, des fruits, de la viande, qui malheureusement sont totalement contaminés par ces pesticides, surtout par exemple par les organochlorés, et c'est une façon non négligeable pour les enfants, en particulier les petits-enfants, à s'intoxiquer par le lait de leur maman ou par leur nourriture.
Vous reviendrez nous en parler.
Merci, merci messieurs.
C'est pas du vent.
Et comme tous les mardis, c'est l'heure du billet du WWF par son directeur France, Serge Auroux.
Bonjour.
Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'université du WWF qui va se tenir bientôt à Paris le 20 et 21 octobre.
Quel est le sujet ? L'ultimatum climatique.
Ah, mais c'est bizarre.
Le climat peut-il encore attendre ? Comment s'adapter au changement climatique ? Quels sont les critères de succès à Copenhague ? Que veulent les grands émergents ? Les pays industrialisés en font-ils suffisamment ? Toutes ces questions seront posées lors de la troisième université de rentrée du WWF dédiée cette année à l'ultimatum climatique. Elle aura lieu la semaine prochaine à Paris. J'espère que vous y serez, mes amis.
Bien sûr, on passera.
Elle s'inscrit aussi dans la démarche de fédération de 11 ONG autour de l'opération l'ultimatum climatique. Face à cette crise systémique, climatique, écologique, toxicologique, économique, humanitaire, nous travaillons en transversalité. Réunis pour faire entendre d'une même voix cet ultimatum climatique, nous affirmons que la question écologique est une question humaine. Le changement climatique n'admet plus de contestation. Les faits sont là. L'ultimatum climatique est l'ultimatum de l'homme face à lui-même. Ce qui est en jeu, ce n'est pas ou plus de sauver la planète, mais d'assurer des conditions de vie dignes. D'une menace encore récemment considérée par certains comme une lubie d'écologistes, le changement climatique devient une question éminemment humaine, une question de solidarité. C'est paradoxalement face à l'urgence que l'écologie prend tout son sens, la protection des conditions environnementales, d'une vie digne. L'université aura lieu les 20 et 21 octobre à Paris, au pavillon de l'eau, 2 jours de conférences et de débats en présence de responsables d'ONG, de politiques, de scientifiques, d'économistes pour mieux comprendre les enjeux de Copenhague. Il reste encore quelques places.
Quelques places pour nous parler de l'ultimatum climatique.
Nous arrivons aujourd'hui à 233 000 signataires de l'ultimatum climatique qui vise à rassembler 1 million de signatures avant le 7 décembre, début du sommet de Copenhague, que nous voulons voir réussir. Un élément formidable de cet appel solennel au président de la République est la diversité des ONG qui en sont à l'origine. Alors, je rappelle le site où vous devez aller signer www.copenhague-2009.com. Signer pour les abeilles, les lombriques et les baleines bleues. Signer pour préserver notre environnement immédiat et lointain. Signer et faites signer l'ultimatum climatique.
Merci Serge Rue, à mardi prochain. Ah, André Picot applaudit de demain. À mardi prochain, Serge. C'est sur ces mots de Serge Aurue donc que se termine pour aujourd'hui votre magazine de l'environnement. Demain, C'est pas du vent vous emmènera au Mali.
Avec un très beau reportage sur le fleuve Niger. À demain, même planète, même heure.